Vous êtes sur RTL.
7h, c'est le journal et c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, la mort de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il avait 84 ans, on va tout vous dire. Un acte rare et fort, la France rappelle ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis deux jours après l'annulation d'une très grosse commande de sous-marins français. Et puis on compte désormais 50 millions de Français qui ont reçu au moins une première dose de vaccin, alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'essouffle.
Il était resté à la tête de l'Algérie pendant 20 ans. Abdelaziz Bouteflika est mort à l'âge de 84 ans. L'ancien président avait été chassé du pouvoir en 2019. Après des manifestations massives, il était omniprésent dans la vie politique algérienne, même si ça faisait plusieurs années qu'il était devenu quasi invisible dans les médias algériens. Brice Dugénie.
Oui, depuis son accident vasculaire cérébral en 2013 et ses deux mois de convalescence à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, Abdelaziz Bouteflika était devenu un président fantôme en fauteuil roulant. Il ne s'adressait plus à son peuple. La dernière fois, ce fut en 2014 pour sa quatrième candidature à la présidence, un filet de voix inaudible. Mars 2019, sa candidature pour un cinquième mandat sera celle de trop. Lassé par ce simulacre de présidence, le peuple, la jeunesse, descend dans la rue et demande son départ. Lâché par l'armée, Abdelaziz Bouteflika renonce et dans son sillage, son système s'effondre. Épilogue pathétique qui fait oublier le Bouteflika qui prit le maquis pendant la guerre d'Algérie, acteur de l'indépendance, celui qui a également œuvré pour la réconciliation nationale après la décennie noire, la guerre civile dans les années 90.
La République ne négocie avec personne. La République essaye d'offrir des solutions à ceux qui, pour une raison ou une autre, se sont laissés entraîner vers un phénomène d'expression par la violence. Je suis en train de travailler pour la concorde civile.
Pour la jeunesse algérienne, ce président appartient au passé. Abdelaziz Bouteflika n'aura donc d'autre choix que de partir le 2 avril 2019.
Brice Dugénie pour RTL.
Et dans un quart d'heure, nous irons en Algérie rejoindre notre correspondant sur place pour savoir comment le pays réagit à cette disparition. L'actualité également ce matin, cette décision historique. Alexandre, la France rappelle ses ambassadeurs en Australie et aux États-Unis.
48 heures après l'annulation de ce qu'on surnomme le contrat du siècle, l'Australie avait signé un bon de commande pour 12 sous-marins français, 56 milliards d'euros, mais les Australiens ont finalement choisi de faire affaire avec les Américains et les Britanniques. Un camouflet pour la France. Christophe Decroix, cette décision de rappeler les ambassadeurs à Paris, c'est une réaction très symbolique et très forte.
Oui, c'est un geste diplomatique très fort, en particulier quand il s'adresse à des alliés. C'est extrêmement rare. Pour Paris, il s'agit de marquer le coup. Il y a deux messages, en fait. Un qui s'adresse aux États-Unis pour leur demander ce que ça représente vraiment pour eux, des alliés. Est-ce une quantité négligeable qui doit s'aligner ou est-ce un partenaire? L'autre, aux Australiens, pour leur dire « vous aviez pris des engagements, on n'oubliera pas ce sale coup ». On peut ajouter un troisième message aux deux réunis qui dirait « mais quand peut-on vous faire confiance ?» Nos ambassadeurs ont pris le premier avion et seront reçus par le ministre des Affaires étrangères et par le président de la République. Ils raconteront dans le menu la façon dont cette affaire s'est déroulée à leur niveau. On n'ira pas jusqu'à la rupture des relations diplomatiques, c'est impossible. Mais on gardera nos ambassadeurs à la maison le temps de voir les réactions de ces curieux alliés. Et rien ne dit que la France ne prendra pas d'autres décisions pour marquer son mécontentement. Cette affaire de sous-marin n'est pas qu'une question de contrat financier, c'est aussi une question d'alliance stratégique face à un monde incertain.
Étrangers de RTL.
La France franchit la barre des 50 millions de primo-vaccinés, mais Alexandre avec 17 jours de retard.
C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier soir sur les réseaux sociaux, accompagné d'une vidéo pour se féliciter des progrès de la campagne de vaccination contre le Covid-19. 50 millions de personnes ont donc reçu au moins une première dose, c'est pratiquement 3 Français sur 4.
La France est donc dans le peloton de tête des pays les plus vaccinés en Europe, mais le rythme des nouvelles injections s'est fortement ralenti ces dernières semaines.
Le ministère de la Santé espère un rebond à la rentrée avec des campagnes de vaccination dans les établissements scolaires notamment, mais les volontaires ne sont pas très nombreux. Marie Guerrier, vous avez passé une journée dans un centre de vaccination éphémère dans un collège-lycée parisien.
À Alors, un petit conseil, déjà tu te détends.
Des paravents blancs délimitent les boxes de vaccination.
Tout va bien se passer, ma belle.
Ils ressortent un petit pansement collé sur le haut de l'épaule.
Moi j'avais eu le Covid il n'y a pas longtemps, du coup j'ai dû attendre quelques mois.
Et tes parents ont trouvé que c'était pratique de le faire là, dans le cadre
Oui, puis moi aussi.
Et moi, bah en fait, je le fais ici parce qu'il n'y avait pas assez de rendez-vous en dehors du collège.
D'autres ont tout juste l'âge requis.
J'avais pas encore 12 ans avant le 25 août. Ma mère a proposé de me faire vacciner à l'école pour que ça soit plus simple.
Avant de se faire vacciner, les élèves doivent présenter l'autorisation signée par leurs parents.
Au départ, ils n'étaient pas vraiment d'accord, mais comme ils savaient qu'on ne pouvait pas rester dans les classes s'il y avait un cas contact, pas vacciné, donc ils se sont dit que ce serait mieux de me faire vacciner.
Au milieu des élèves, il y a aussi une prof de maths qui vient de décider de recevoir sa première injection.
J'ai pris le temps de réfléchir. J'arrive sereine aujourd'hui. On contribue à ce que toute la société vive le mieux possible. Hein. Donc on fait ça aussi pour les autres. On fait ça pour soi, pour les autres.
Quelques élèves de sa classe prépa ne sont pas vaccinés et elle en est convaincue. Il restera un petit noyau dur.
Marie Guerrier, spécialiste éducation pour RTL. Suite aux appels au harcèlement lancés sur les réseaux sociaux contre les enfants nés en 2010, TikTok a finalement décidé de supprimer le hashtag anti-2010. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était hier soir l'invité de RTL. Il annonce qu'il va recevoir prochainement les représentants des réseaux sociaux qu'il juge, pour certains, pas à la hauteur.
Patrimoine pour tous, c'est le slogan de la 38e édition des Journées du patrimoine qui commence aujourd'hui.
Aujourd'hui et demain, deux jours pour découvrir ou redécouvrir des lieux chargés d'histoire. On vous emmène ce matin dans le Finistère, dans un musée consacré à la sardine. C'est le musée de la conserverie Le Gall, construite en 1901, active jusqu'en 1954. Témoin exceptionnel de l'histoire industrielle et sociale de la Bretagne, Patrice Gabart.
Dans cette conserverie restaurée sous la houlette des monuments historiques, les brancards en bois pour transporter les sardines, les tables, les grilles, les bassines de saumurage, les sertisseuses, tout est d'époque, même la chaudière. Et la scénographie plonge littéralement le visiteur dans les années 30. Pierre Kilivic, adjoint en charge du projet.
On a des vues stylologrammes sur une plaque de verre avec un dépoli, ce qui permet de voir le geste de l'étêtage, le geste de l'emboîtage et le geste de l'huilage. Et pour être sûr d'avoir le bon geste, ces personnes que l'on voit là sur les écrans sont les personnes qui sont salariées aux établissements Furic, la compagnie bretonne à Pinmar, qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Habillées, coiffées, elles ont été positionnées aux tables de travail, ce qui permet d'avoir une vision comme si on avait réellement la personne dans l'usine en train de travailler.
Ce musée témoigne aussi de l'histoire sociale. Christine Zamuner, maire de Loctudy.
Ces femmes, elles ont eu la capacité et la possibilité de travailler dans cette conserverie parce que les temps étaient très durs, il y avait de la famine, les maris étaient partis, soit à la pêche, soit à la guerre. Et ces femmes ont nourri leurs enfants et ont permis à leur famille de pouvoir continuer à vivre. C'est elles qui ont tracé le chemin du travail des femmes. Elles nous ont ouvert le chemin.
La ville table sur 10 à 15 000 visiteurs par an.
Patrice Gabart pour RTL. Et si vous souhaitez visiter donc la conserverie Le Gall, portes ouvertes ce week-end à Loctudy dans le Finistère. Toutes nos suggestions pour les journées du patrimoine, nos conseils à retrouver sur notre site internet rtl.fr. Le football hier soir avec la victoire de Strasbourg face à Metz en Ligue 1, 3 buts à 0. Deux matchs à suivre aujourd'hui, notamment le derby du Nord entre Lens et Lille à partir de 17h. Et puis ce soir dans RTL Foot, 20h, 23h, Saint-Etienne contre Bordeaux.
Très joli programme, merci Alexandre de Saint-Aignan. L'actualité c'est tout simple, c'est l'appli RTL.